Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission culturelle. À Prague, il existe le Pont des Légions, une rue qui porte le nom de Zborowska, évoquant, pour qui le sait, une célèbre bataille en Russie pendant la Première Guerre mondiale. Un bâtiment à l'architecture étrange, dite rondo-cubiste, s'appelle encore Legionarska banka, la banque des légions. Ces légions, ce sont ces corps d'armée tchèques et slovaques à l'étranger pendant la Première Guerre mondiale. Il y en eut en France, qui combattait du côté des Alliés contre l'Allemagne et l'Autriche. Et puis, il y en eut aussi en Russie, un épisode moins connu et complexe, et pourtant décisif pour la création du futur État tchécoslovaque en 1918. Récemment, un écrivain écossais, James Meek, a mis en scène ces légionnaires tchécoslovaques errant en Sibérie dans son roman « Un acte d'amour ». Mais cet épisode a également séduit le français Christophe Goret, dit Chris, auteur de scénarios de bande dessinée et passionné d'histoire. Il prépare avec son comparse dessinateur Jean-Denis Pendant une BD en 9 volumes intitulée « Svoboda, liberté » en tchèque, sorte de carnet de guerre d'un légionnaire tchèque. Derrière ce projet, un long travail de recherche, on l'écoute.
Plus ça va, plus je trouve de choses. Mais j'étais surpris à quel point c'était méconnu. Alors je supposais qu'au moins en Tchéquie, ça faisait partie des mythes fondateurs quand même. Ouais, mais ce qui est important, c'est quand tu lis les comptes rendus diplomatiques, parce que j'ai réussi à choper sur eBay les mémoires de différents ambassadeurs, notamment ambassadeur de France en Russie, puis les contacts tchèques à Paris, etc. C'est vraiment l'existence de la Légion en Russie qui permet de, donner le coup final à la création de l'État tchèque. C'est vraiment là-dessus que Masaryk joue et que le gouvernement français lui demande aussi. Bon, en gros, tant que les légionnaires restent en Russie pour le compte des alliés, ça aide à la création de l'État tchèque. C'est assez étonnant. Ils ont un rôle extrêmement important dans la création de l'État tchécoslovaque, parce qu'il y a d'autres pays qui demandaient leur indépendance aussi, qui ne l'ont pas eu. Eux, le fait qu'il y ait 70 000 Pékin en train de se battre pour le compte des alliés, puis contre la révolution bolchevique, mais à la demande des alliés toujours, c'est extrêmement important dans les négociations.
Ça a appuyé en faveur donc de la création.
Ouais. C'est vraiment presque un donnant-donnant, et plus que les... Parce qu'en France, la Légion tchèque en France, c'est quoi? C'est 4 000 et quelques soldats, hein. C'est pas énorme. Ils ont eu un rôle plutôt symbolique de participation justement aux côtés des alliés, ce qui fait que ça a appuyé la demande de reconnaissance du futur État tchécoslovaque. Mais le vrai argument militaire aux mains de Masaryk et des responsables tchèques qui prenaient la création de l'État, c'est ces 70 000 belous perdus au beau milieu de la Russie, quoi, qui permettent de garder un front à l'est dans un premier temps quand la révolution fait se déliter complètement l'armée russe, et puis quand la paix est signée avec l'Allemagne. C'est le fait qu'ils restent là pour essayer de tuer la révolution bolchevique dans l'œuf, qui à nouveau donne des arguments à la création de l'État tchécoslovaque. C'est là où je suis surpris qu'en France, cette histoire-là soit pas du tout connue, qu'il n'y ait pas un chercheur, par exemple, qui ait fait un peu une synthèse, qu'il soit anglais, qu'il soit américain, qu'il soit français là-dessus. À ma connaissance, il n'y en a pas.
Comment est-ce que vous avez découvert en fait cette histoire de la Légion tchèque, puisque en effet c'est un épisode peu connu, en tout cas en France?
C'est comme souvent pour les grandes histoires, c'est complètement par hasard. Hein. En fait, je cherchais de la documentation sur les trains blindés pour un autre récit qui n'avait absolument rien à voir avec le récit sur les légionnaires tchèques. Et j'ai trouvé un livre d'occasion vendu 10 francs sur l'histoire des trains blindés. Donc je l'ai pris parce qu'il y avait beaucoup d'iconographie à l'intérieur. Et en regardant le sommaire, il y avait un chapitre sur les trains blindés tchèques. Et ça m'avait interpellé parce que j'imaginais pas obligatoirement que les Tchèques avaient des trains blindés. Et je suis allé voir ce chapitre qui consistait juste en une double page où il y avait une photo de ces légionnaires tchèques légendés comme étant prises en Sibérie entre 1918 et 1919 et qui évoquaient en une dizaine de lignes l'aventure des légionnaires tchèques. Et comme je connaissais pas du tout cette histoire, que les trains blindés, les trains en général me fascinaient déjà, la Sibérie, la Russie aussi, et qu'est-ce que faisaient ces légionnaires tchèques au beau milieu de la Sibérie en 1918-1919, ça m'a interpellé. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher.
Alors, est-ce que vous pourriez rappeler exactement, justement, qu'est-ce que faisaient ces Tchèques et Slovaques aussi, parce qu'il y avait aussi des Slovaques, oui, au beau milieu de la Sibérie après la Première Guerre mondiale?
Ouais, alors ils sont bien souvent nommés les Tchécoslovaques. Hein. Bon, alors on trouve rarement les Slovaques tout seuls, on trouve les Tchèques tout seuls, mais sinon c'est quand même souvent ils sont nommés Tchécoslovaques déjà à ce moment-là. Ce sont pour la plupart des prisonniers en fait de l'Empire austro-hongrois qui ont été, enfin des soldats de l'Empire austro-hongrois qui ont été mobilisés en 1914 pour combattre contre les Russes. Assez rapidement, une bonne partie d'entre eux se sont rendus aux Russes, notamment en 1915. Il y a toute une vague de désertion des régiments entiers hein, qui passent avec armée et bagages du côté des Russes, principalement parce que parmi eux, il existe beaucoup de nationalistes tchèques et slovaques. Alors il y a deux tendances. Il y a une tendance républicaine qui regarde plutôt vers la France, qui rêve d'une république tchécoslovaque. Il y a une tendance monarchiste qui rêve d'un Romanov installé sur le trône de Bohême.
Par opposition aux Habsbourg.
Voilà, par opposition aux Habsbourg. Et donc ils se rendent, alors comme ils se battent pas sur le front de l'Ouest, hein, ils se battent sur le front de l'Est contre les Russes, donc ils se rendent aux Russes, mais ils demandent très rapidement au tsar de les armer pour rejoindre l'armée russe, ce que le tsar refuse pendant 2 ans, parce que lui-même a ses propres minorités, donc il regarde quand même les Tchèques d'un œil méfiant. Il y a aussi apparemment une opposition très forte de la tsarine, qui est d'origine allemande et qui déteste les Tchèques. Du coup, ces hommes-là, qu'on évalue entre 50 et 100 000, hein, ça dépend des sources, passent 2 ans en camp en Ukraine. C'est au moment où éclate la première révolution russe, celle des Mensheviks, celle de Kerensky, que Kerensky décide effectivement de créer un corps d'armée tchèque et de l'incorporer à l'armée russe. Parce qu'il en a évidemment beaucoup besoin à ce moment-là, l'armée russe partant, se délitant complètement au printemps 1917. Les Tchèques sont incorporés à l'armée russe et remportent la dernière bataille victorieuse sur le front de l'Est, c'était à Zborov en juillet 1917. Pour le compte des Russes, ils battent les armées austro-hongroises, mais à ce moment-là, la deuxième révolution russe éclate, celle des bolcheviks, et rapidement, les bolcheviks vont vouloir faire la paix avec les Allemands et les Austro-Hongrois. Du coup, ces soldats tchèques se retrouvent coincés en Russie. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils seraient déclarés déserteurs, traîtres, etc. Ils ne peuvent pas non plus rentrer chez eux en allant par la route la plus courte, c'est-à-dire vers l'ouest de l'Ukraine jusqu'en future Tchécoslovaquie. Et ils décident donc de rentrer chez eux en allant vers l'est jusqu'à Vladivostok pour prendre le bateau à Vladivostok et rejoindre au départ. Il y a plusieurs solutions. Soit ils vont rejoindre la France pour continuer à se battre sur le front de l'ouest contre les Allemands et les Austro-Hongrois. Soit ils rêvent déjà d'aller faire la révolution dans leur pays.
Donc c'est une véritable aventure. Du coup, alors vous avez l'intention de mettre ça en bande dessinée de 9 volumes qui s'appellerait donc Svoboda, Liberté en tchèque.
Oui.
Comment est-ce que vous travaillez? Alors vous vous occupez justement de l'histoire, du scénario et vous avez également un dessinateur qui va s'occuper justement de faire les planches.
Oui, en fait, il y a d'abord eu à peu près 2 ans de recherche historique. Là, le gros des recherches est fait, mais ça va continuer quand même tout le long du travail. Hein. Au fur et à mesure, on va découvrir des choses, on va continuer à lire. À partir de maintenant, je commence réellement à écrire l'histoire de ces 9 volumes. En fait, l'aventure de la Légion, on l'apprend à un événement fondateur qui se passe en mai 1918, qui est ce qu'on appelle l'incident de Tcheliabinsk, où les soldats tchèques qui sont en train de foncer vers Vladivostok se heurtent à des prisonniers hongrois qui reviennent des camps de prisonniers en Sibérie pour rentrer chez eux, suite aux accords de paix entre les bolcheviks et les Allemands. Bon, il y a un incident, il y a un mort chez les Hongrois, et des Tchèques sont emprisonnés par les bolcheviks, et les Tchèques attaquent la ville de Tcheliabinsk pour libérer leurs prisonniers. Et à partir de cet événement fondateur, Trotsky les déclare hors la loi. Et à partir de là, les Tchèques entrent vraiment en résistance, comprennent qu'il va falloir sortir de ce pays le plus vite possible pour pouvoir rentrer chez eux avant qu'il soit trop tard. Bon, manque de chance, ça va durer 3 ans encore, leur aventure au beau milieu de la Sibérie. Et donc l'histoire de Svoboda les prend vraiment au moment de Tcheliabinsk et va raconter ces 3 ans de fuite et de lutte au beau milieu du chaos de la guerre civile russe qui démarre réellement à ce moment-là.
Mais 9 volumes, ça veut dire que vous allez couvrir également la période du retour en Tchécoslovaquie ou pas?
Non,
du tout?
Non, ça s'achève sur le retour. Par contre, en flashback, on va traiter la période avant, c'est-à-dire au moment de 1914, quand ils sont mobilisés, puis quand ils se rendent aux Russes, puis leur vie dans les camps de prisonniers en Ukraine, et au final, le moment où tout démarre. Il y aura donc quelques flashbacks comme ça pour expliquer d'où ça vient. Mais sinon, non, on va raconter les 3 ans de leur vie en Russie. En fait, on a déterminé 9 périodes assez marquantes qui sont très différentes. Le premier volume s'attache avant tout à l'incident de Tcheliabinsk, qui est l'événement fondateur. Le deuxième volume, c'est leur fuite vers Vladivostok, où ils arrivent, pour la plupart, ils prennent en fait l'ensemble du Transsibérien, entre Tcheliabinsk et Vladivostok, pendant l'été jusqu'au bout, qu'ils vont pouvoir rentrer. Et finalement, non, il n'y a pas de bateau pour les rembarquer. Et les Alliés leur demandent de rester en Russie pour continuer à avoir un front à l'est contre les Allemands et les Austro-Hongrois. Donc là, le troisième volume les prend au moment où, ben, à l'hiver, automne-hiver 1918, où s'installe un peu la routine, où voilà, ils sont bloqués et ils comprennent qu'ils vont rester là pendant un bon moment. Et puis à nouveau, après, ils sont envoyés à Arkhangelsk, cette fois, donc ils partent de Vladivostok pour aller jusqu'à Arkhangelsk, qui est quand même sur la côte nord, et là, ils manquent de capturer Trotsky lors de cet événement-là, lors de ce voyage-là, et à nouveau, au final, les Alliés qui ont débarqué à Arkhangelsk rembarquent finalement, et leur disent, ben non, retournez à Vladivostok. Donc ils repartent vers Vladivostok encore. Donc bref, il y a tout un tas de périodes comme ça très différentes, avec énormément d'événements, énormément d'aventures à raconter.
Vous-même, vous avez emprunté le Transsibérien récemment dans le cadre d'un voyage qui a embarqué plusieurs dizaines d'écrivains français à travers la Russie. C'était une sorte de plongée finalement dans l'univers, peut-être pas en hiver en tout cas, puisque c'était en mai, et donc un peu plus vivable, je pense. Mais en tout cas, c'est une plongée dans l'univers de ces légions aussi, d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en avez retiré justement de ce séjour ?
Bon, c'est pas les mêmes proportions. Vécu 3 ans dans des conditions très difficiles. Moi, j'ai vécu 3 semaines dans des conditions pour le moins agréables, puisque c'était quand même un voyage officiel. Bon, déjà, ça permettait de voir les paysages qu'ils ont traversés, puisqu'en voilà, en partie, j'ai fait exactement le chemin qu'ils ont fait lors de leurs différents voyages. Après, ça permet quand même de prendre conscience de plein de petites choses qui se passent dans le train, des choses toutes bêtes, par exemple le roulis du train. Il y a un véritable... Quand on passe plusieurs jours d'affilée dans un train, surtout un train tel que le Transsibérien, on arrive sur terre, on tangue. Voilà, c'est comme le bateau, voilà, on a la tête qui tourne, on a la démarche pas très bien assurée. Bon, c'est plein de petits détails comme ça de la vie qui va me permettre de mettre un peu plus de quotidien véritable dans le récit, parce que tout ce qui m'intéresse, c'est avant tout le quotidien de ces hommes-là. C'est pas la grande aventure, c'est plutôt leurs petites aventures au quotidien. Voilà, il y a le temps de voyage,
C'est un monde à part quand même le train, parce qu'on vit d'une certaine manière quand même confiné, mais en déplacement.
Rien que de prendre conscience de la promiscuité et des efforts qu'on doit faire pour pouvoir vivre en communauté, parce que quand on est 40 par wagon, bon c'était notre cas, enfin nous étions une vingtaine par wagon, on est obligé de faire des efforts tout le temps, parce que voilà, si chacun pense qu'à soi, au bout de 2 jours tout le monde se tire dessus. Hein. Alors j'imagine eux qui ont duré 3 ans. Voilà, c'est évident qu'au début, il devait y avoir une sorte d'exaltation, on va rentrer chez nous, etc., et tout ça. Et petit à petit, quand le quotidien s'installe, la longueur et surtout l'absence de perspective pour réellement rentrer chez soi, j'imagine à quel point ça a dû être difficile. Or, ils sont restés extrêmement soudés de tous les témoignages qu'on a retrouvés. Voilà, ce corps d'armée tchèque est resté extrêmement solidaire entre eux. Donc, ça m'intéresse aussi de pouvoir raconter ça, et le fait que je l'ai vécu un petit peu, à petite échelle, pendant 3 semaines, c'est intéressant pour mettre en perspective justement ce qu'ont pu vivre.
Juste une dernière question. Comment est-ce que ces légions ont été accueillies à leur retour en Tchécoslovaquie quand elles sont revenues ?
Je le sais assez mal. C'est fait partie des choses que je dois fouiller. Mais il me semble, d'après les premières lectures que j'ai eues, que justement ils sont un peu les oubliés de l'histoire quelque part. Parce que c'est quand même principalement grâce à leur action que les représentants tchèques auprès des alliés ont pu obtenir la création de l'État tchécoslovaque. En se servant de cette force militaire dont les Alliés avaient besoin pour appuyer leurs revendications, sauf qu'ils sont arrivés en décembre 1920 seulement. Et en décembre 1920, l'État tchécoslovaque est créé depuis déjà un bon moment, les postes de fonctionnaires ont été distribués en grande partie, les terres des nobles autrichiens, même l'armée tchécoslovaque existe déjà, sans eux.
Et ils arrivent quand la fête est finie, en gros.
Ouais, un petit peu quand même. Alors, a priori, ils sont revenus en héros. Hein. J'ai des images, des photos, il y a un grand défilé à Prague, etc. Ils ont quand même été accueillis comme tels. Malgré tout, entre ce corps d'armée qui a vécu ensemble pendant 3 ans et l'armée tchécoslovaque qui a déjà été créée à partir d'autres personnels, certains qui avaient combattu sur le front de l'Ouest, mais aussi des recrues, etc., il y a eu visiblement des tensions. Et l'un des principaux commandants tchèques de la Légion, qui s'appelle le capitaine Gadja, il finira fasciste et collaborera à l'ordre nazi, par exemple. Donc ça montre aussi la dérive de certains d'entre eux qui ont finalement sans doute pas réussi à trouver leur place dans la République tchécoslovaque qu'ils avaient pourtant contribué à créer. Mais ça reste à fouiller, et une fois de plus, comme cette histoire est extrêmement méconnue en dehors de la Tchécoslovaquie, là il me faut l'appui d'historiens tchécoslovaques pour ne pas raconter trop de bêtises.
« C'était Christophe Goret, dit Chris, qui prépare avec le dessinateur Jean-Denis Pendant une BD en 9 volumes sur la Légion tchécoslovaque en Russie pendant la Première Guerre mondiale. Les deux premiers volumes devraient paraître au printemps 2011 à raison de 2 volumes par an. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission culturelle. Vous pouvez évidemment la retrouver sur notre site internet au www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.